Bonjour à tous, à tous nos amis de RCF en ce début du mois de février 2023. Je vous propose de poursuivre ensemble nos découvertes du patrimoine de notre région, si divers, et d'explorer aujourd'hui un patrimoine qui est un véritable trésor, puisqu'il s'agira d'un trésor insoupçonné en notre région. Pour cela, nous nous rendons dans la ville de Sens et plus spécialement au musée qui jouxte la cathédrale. Ce musée recèle un ensemble d'objets qui nous font remonter les siècles en sollicitant autant notre esprit que nos yeux admiratifs devant ce qui est exposé. Il ne s'agit pas de faire simplement un tour des vitrines ou de jeter un œil rapidement sur ce qui s'y trouve, de lever la tête pour découvrir de curiosités, des tissus, des ors, des ivoires, mais également de côtoyer d'illustres personnages comme Henri IV, Saint-Louis, Thomas Becket. Le trésor nous emmène aussi dans les premiers siècles de ce premier millénaire. Nous sommes sur les pas de Justinien, empereur de Byzance, sur ceux qui ont rapporté le verre à soie depuis la lointaine Chine, sur des brodeuses extraordinaires. Si vous savez bien sûr ce qu'est une montrance ou un antependium, vous apprendrez sans doute ce qu'est la nuée d'or. Nous arrivons à Sens et nous sommes reçus par Lydvine Saunier-Pernuit, conservatrice déléguée, c'est bien ça, des antiquités et objets d'art. Merci de nous recevoir. Je suis absolument ravi de vous retrouver dans un endroit aussi prestigieux. Je pourrais commencer par le fait de nous dire, mais Sens, il y a une cathédrale gothique, on m'a dit que c'était une des premières ou la première. Je suis étonné, on le sait très peu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce musée ici et puis après on fera le tour des objets exposés?
Bienvenue alors au trésor de la cathédrale de Sens. C'est un lieu, vous avez certainement tout de suite, vous serez frappé si vous venez, par le côté un peu obscur, confidentiel, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord le lieu. Nous sommes au trésor qui est considéré comme l'un des deux premiers de France, avec celui de Conques, l'abbaye de Conques, mais qui est très différent parce que c'est une abbaye riche en pièces d'orfèvrerie remarquables. Et ici, vous allez voir au fil de cette petite visite que nous sommes une référence au niveau national et international pour tout ce qui est textile. Le textile est une matière rare et fragile, et le conserver de nombreux siècles après est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, le lieu. Le lieu est particulier, nous sommes dans le lieu historique, c'est-à-dire qu'on est complètement lié à la cathédrale, puisqu'un trésor de cathédrale est lié à sa cathédrale. Vous l'avez dit tout à l'heure, la cathédrale de Sens est une des premières constructions gothiques, on dit même la première cathédrale gothique, au tout début de l'âge au XIIe siècle, et dans cette jonction, ce début de l'architecture gothique. Et c'est aussi un archevêché important, qui avait 7 diocèses sous son autorité et qui a eu Paris, notamment, jusqu'au XVIIe siècle, sous son autorité religieuse. Donc, un archevêché important qui est établi sur le découpage administratif romain et qui fait de Sens ce lieu très important sur le plan historique et religieux. Donc, le lieu est historique et il le restera toujours puisque nous sommes dans le trésor d'en haut, qui est l'endroit où étaient enfermées les pièces les plus précieuses, sous l'autorité et la surveillance des chanoines chargés du trésor et du représentant de l'archevêché, puisque c'est un bien commun entre les deux. Après 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, le trésor a été installé dans l'ancienne chapelle des archevêques de Sens, puisque chapelle privée, puisque l'archevêque est un grand personnage qui ne dit pas sa messe tous les jours dans la cathédrale. Il n'intervient que pour les grandes cérémonies. Et donc, ce lieu est le lieu privé où quelques personnes autour de l'archevêque assistent à sa messe.
Nous sommes impatients de faire le tour de cette collection, de pouvoir la découvrir grâce à vous.
Alors, il faut dire, je disais tout à l'heure que c'était une référence au niveau textile. Nous avons 3 catégories de textiles. Quelques tapisseries, peu nombreuses. Actuellement, il y en a 3 d'exposées, mais qui sont absolument remarquables. On va en détailler une si vous voulez. Deuxième catégorie de textiles, les sphères, c'est-à-dire les soieries tissées. Qui sont souvent d'origine byzantine, perse, etc. Les grandes pièces sont au mur, sous des protections, et les petits morceaux, qui sont tous intéressants, même s'ils sont très petits, quelques centimètres carrés, sont exposés dans les vitrines. Et la troisième catégorie de textiles, ce sont les vêtements liturgiques, dont les plus importants, les plus connus, disons, sont ceux de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, réfugié à Sens après les démêlés qu'il avait avec le roi d'Angleterre, et qu'il a laissé ici, et qui sont non seulement des témoignages remarquables des vêtements liturgiques, d'un ensemble de vêtements liturgiques complets du XIIe siècle, milieu XIIe siècle, mais qui sont devenus, bien sûr, des reliques, puisque Thomas Becket a été martyrisé et que ses ossements ont été brûlés ensuite. Donc il reste la relique secondaire, comme on dit, c'est-à-dire les vêtements qui ont touché le corps saint de Thomas Becket. Donc on peut, si vous voulez bien, aller vers ce que j'estime être le chef-d'œuvre du trésor de la cathédrale de Sens à titre tout à fait personnel, c'est-à-dire la tapisserie des trois couronnements.
Très bien. Les auditeurs et moi, nous vous suivons.
Alors vous ne pouvez pas la manquer parce qu'elle est au-dessus de l'autel, dans une disposition d'origine, même si bien sûr elle n'était pas là certainement dans l'origine, parce que c'est un retable fait pour le halt de l'autel, comme il est dit dans les inventaires de 1564, c'est-à-dire qu'elle est en forme de T et elle représente trois couronnements. Le couronnement de la Vierge dans la partie supérieure, dans une mandorle avec des anges rouges et des anges bleus qui symbolisent le ciel. À gauche, le couronnement de Bethsabée et à droite, le couronnement d'Esther par Assuérus. On compare souvent avec les autres tapisseries un peu postérieures, comme la Dame à la Licorne au musée du Moyen-Âge à Paris. On compte pour la Dame à la Licorne 5 à 6 fils au centimètre. Là, on est entre 10 à 11 fils au centimètre. C'est-à-dire, donc cette finesse permet de faire des dégradés de couleurs, des précisions. Regardez par exemple les ailes des anges avec cette espèce de succession de couleurs extraordinaires. Regardez les poils de la barbe d'Assuérus par exemple, très vénérable là, sur son trône. Et puis regardez aussi les vêtements tout à fait remarquables qui sont ceux des cours royales en cette deuxième moitié du XVe siècle.
Ce retable est donc postérieur à celui de l'agneau mystique de Gand qui était fait de mémoire en 1432, me semble-t-il. Ce qui frappe, c'est la qualité des couleurs que l'on voit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Eh bien, la raison particulière, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure avec le trésor d'en haut. Cette pièce n'était sortie que pour les grandes cérémonies, c'est-à-dire les fêtes de la Vierge, peut-être quelques fois par an. Le reste du temps, elle était roulée dans les grandes armoires ou dans les coffres, je ne sais pas, du trésor. Et donc, elle était protégée de la lumière. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi nous vivons dans une semi-obscurité et qui permet que nous aussi, nous puissions la protéger. Si vous me permettez une anecdote, je vais dire qu'en 1836, cette pièce était menacée de disparition parce que les chanoines chargés du trésor et de la fabrique, comme on dit à ce moment-là, avaient l'intention de s'en débarrasser. Et Mérimée Passe, vous connaissez évidemment l'importance de ce premier inspecteur des monuments historiques. Il est bouleversé par la qualité de ces deux tapisseries, puisqu'il y en a une autre qu'il défend aussi, l'Adoration des Mages, dans la salle voisine. Et là, il fait une note manuscrite qui est toujours conservée dans les archives de la médiathèque du patrimoine à Charenton. Et il prévient le roi en disant « il faut absolument faire quelque chose pour protéger cette tapisserie, qu'elle ne parte pas ». Et en effet, on agit. Et on interpelle évidemment le chapitre qui nie en disant mais pas du tout, nous n'avions pas du tout l'intention de la vendre. Et ils font marche arrière et ce moment-là est lancé le premier inventaire du trésor qui va bloquer en quelque sorte les premières pièces qui ont échappé à l'obstruction révolutionnaire. Et Mérimée dit, même le rose des joues apparaît encore. Et si vous le regardez, il apparaît délicatement, mais il apparaît encore sur les joues et sur les lèvres.
Oui, je confirme, je confirme. Nous sommes aujourd'hui au musée de Sens. Nous y découvrons le trésor de la cathédrale, deuxième trésor de France après celui de Conques, avec Lydvine Saunier-Pernuit, conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art, et précédemment directrice des musées de cette ville.
Alors, puisqu'on restait sur les textiles, je vous propose de passer maintenant sur un des suaires. On ne va pas pouvoir, bien sûr, malheureusement, tous les regarder, mais voilà l'exemple, le suaire de Saint-Victor, qui est une soierie byzantine, qui est assez grande, vous voyez, elle fait plus d'un mètre de haut sur une soixantaine de centimètres de large, et elle représente le même motif, un médaillon dans lequel vous avez un personnage barbu, menaçant un peu, qui attrape de ses deux mains deux lions pour les étrangler, tandis que deux autres lions lui saisissent les pieds. Alors, qui est ce saint ? On se dit, c'est Daniel dans la fosse aux lions, mais pas du tout. Daniel n'a pas fait ça du tout. Il s'agit d'une représentation probablement de quelque chose de complètement païen, comme Gilgamesh, ce héros du Proche-Orient, qui est tout puissant, puisque les lions ne lui font pas peur, et il peut même les lutter contre eux. Et là, il faut dire un petit mot de ce qu'est la soie pour un homme du Moyen-Âge. Je n'ai pas dit que cette pièce était datée du 8e siècle après Jésus-Christ, et qui est probablement tissée à Byzance. Il faut savoir que la soie, au Moyen-Âge, on a une expression, on dit la soie vaut de l'or. C'est-à-dire que la soie est une matière fascinante qui vient du verre à soie. Le verre à soie n'est pas élevé dans nos régions. Il faut aller le chercher en Chine. Ensuite, des moines byzantins au XIe siècle vont voler quelques cocons de verre à soie et implanter la soie à Byzance. Mais si vous ne pouvez pas aller à Byzance ou en Chine, vous n'avez pas cette matière précieuse. Et elle fascine, parce que nous, à cette époque-là, en Europe, en France, on ne connaît pas cette matière si fine, si extraordinaire, ce fil résistant et fin qui permet, regardez les poils de sa barbe, là aussi, le motif de son cette espèce de vêtement qu'il porte là, sur le buste, tout cela est tout à fait remarquable. À quoi servait ce textile? Il servait à envelopper les reliques saintes. Car la vraie richesse du trésor de Sens, au point de vue liturgique, j'entends, c'était les reliques. L'église de Sens, dit Émile Malle dans un de ses écrits, est la plus riche de France en reliques. C'est une appréciation un peu rapide, je ne sais pas, je n'ai pas comparé, mais je crois en effet, pour vous confirmer que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de reliques de toutes sortes de saints, avec une entrée de reliques importante à partir de l'époque mérovingienne, jusqu'au XIe siècle, tout le monde donne des reliques et donc on en a énormément. Et pour envelopper ces reliques, quoi de plus beau que ces soies? Peu importe ce qu'elles représentaient, même si c'était quelque chose de païen, on enveloppait parce que la matière était précieuse.
Edwine, nous venons de parler des reliques. J'ai cru savoir qu'il y avait une relique tout à fait particulière ici, qui est la couronne d'épines du Christ. Or, cette couronne, me semble-t-il, est également à la Sainte-Chapelle de Paris. Est-ce que ça peut être en deux endroits à la fois?
Tout à fait, ça peut être aux deux endroits, et c'est aux deux endroits. En effet, en 1239, le roi Saint-Louis, qui donc avait acheté Louis IX, qui avait acheté la couronne d'épines par l'intermédiaire des Vénitiens, vient aux extrémités de son royaume, qui est à ce moment-là Sens, justement, plus précisément Villeneuve-l'Archevêque, vient chercher en hommage cette couronne d'épines. Et on a un grand tableau dans le palais synodal de Gaillot, qui est un peintre du XIXe siècle, qui représente Louis IX et son frère Robert d'Artois, pieds nus, recevant la couronne d'épines. Nous n'avions pas la couronne d'épines ici, mais au XIXe siècle, le chanoine Thomas, qui était chanoine de Sens, mais l'un des derniers chanoines de l'abbaye de Saint-Denis, en a récupéré un petit morceau qu'il a donné ensuite. Et donc vous avez la statue moderne des années 1930 d'un sculpteur qui s'appelle Carvin et qui, cette statue en bois, c'est Saint-Louis, portant une espèce d'enveloppe, de couronne d'orfèvrerie dans laquelle il y a quelques brins dits de la couronne d'épines du Christ.
Mais là, j'aperçois beaucoup de petits morceaux de tissu.
Mais on avait une autre manière de conserver les reliques, c'était aussi les bourses à reliques, c'est-à-dire des petits sachets avec souvent une espèce de cordelette qui permettait de le fermer. Et là aussi, les dates sont très variées. Les plus anciennes datent du 8e siècle, les plus récentes du 14e siècle. Et on pouvait mettre les reliques dedans et les mettre ensuite dans des châsses, voire même les porter.
À droite de ce très beau triptyque, vous avez une petite tour qui, de toute évidence, ne semble pas être du tissu.
Nous n'avons pas que des textiles et que de la soie. Nous avons aussi des pièces remarquables qui font la force du trésor, et notamment une pièce qu'on appelle la Sainte Châsse. Cette pièce, elle est majestueuse, elle est toute seule dans sa vitrine. C'est un coffret de 12 pans sur lequel sont fixés des panneaux d'ivoire taillés dans des défenses d'éléphants d'ivoire. Vous savez que la matière est une matière là aussi exotique parce que les éléphants ne sont pas fréquents dans les régions au XIIe, au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. Et donc, il faut s'en procurer, là encore, par les marchands qui viennent de pays très lointains où il y a ces animaux très bizarres qui ont des espèces de dents qui avancent et où l'on peut tailler cette matière. C'est une matière rare, qui coûte cher et qui est réservé bien sûr au trésor, dont les objets façonnés sont réservés au trésor divin, au royaume.
Passons maintenant dans la salle voisine.
Donc c'est ce qu'on appelle la chapelle. Le mot chapelle n'est pas forcément quelque chose qui est une construction, mais c'est un ensemble de vêtements. Et quand on lit les inventaires anciens, on voit le mot chapelle qui correspond à plusieurs pièces qui servent notamment à célébrer le culte. Donc vous avez là une aube, une chasuble, manipule, étole, collet et les choses liturgiques. L'ensemble est du XIIe siècle et dans un état incroyable. Cet ensemble de pièces a été porté par Thomas Becket lorsqu'il était réfugié à Sens entre 1165, fuyant l'Angleterre, et 1170, où avec l'aide du roi de France, on lui a dit « vous pouvez rentrer, tout va bien ». Ce qui était une erreur, puisque le 29 décembre de la même année, il est mort, il a été exécuté, assassiné. Si vous allez à Canterbury, vous verrez l'emplacement même où il a été tué. On va aller voir la Sainte Couronne d'épines, voilà. Alors, on a quelques brins, vous voyez, c'est ces brins-là, qui donc ont été donnés par le chanoine Thomas, qui lui-même le tenait, était l'un des trésoriers, je crois, de l'abbaye Saint-Denis, où avaient été mises les reliques venant de la Sainte-Chapelle. Mais je vais juste attirer votre attention sur cette grande monstrance, comme on l'appelle, qui est faite sur les dessins de Viollet-le-Duc et par son orfèvre habituel Poussiel-Guruzan. C'est un écrin, en quelque sorte, qui est fait pour placer le reliquaire de la vraie croix de Charlemagne qui se trouve dans la tribune et qui est la pièce fondatrice du trésor de Sens donné par Charlemagne. Alors ça, c'est un retable. On l'appelle aussi la chapelle Henri IV parce que c'est une des nombreuses fois où Henri IV, pour montrer qu'il est un bon catholique, commande cette pièce. C'est fait par un brodeur qui a fait ça en nuée, ce qu'on appelle la nuée d'or. La nuée d'or, c'est un tissage particulier où vous avez de la soie, des fils de soie, qui sont entourés par des fils d'or, laissant voir et qui donnent une épaisseur, laissant voir la couleur ou la cachant par moments. Et ce qui est remarquable, c'est l'épaisseur.
Merci Lydvine. Nous avons découvert bien autre chose que de simples objets remarquablement précieux. Vous avez également fait revivre plusieurs prestigieux ancêtres, historiques, politiques, religieux, qui ont permis la confection de toutes ces antiquités. Notre émission se termine. Vous pourrez admirer la plupart des pièces décrites par Lydvine dans une vidéo en vous connectant sur patenvbfc.org. Vous y trouverez également l'intégralité de l'enregistrement audio. Merci de votre fidélité. Nous vous disons à très bientôt et laissons maintenant l'antenne à nos amis des actualités qui vous donneront les dernières nouvelles. À très bientôt.